Troupeau dispersé recherché premièrement, dans une lamentation sur la perte générale de la puissante présence de Dieu dans son peuple depuis les jours des apôtres, avec une plainte particulière au sujet du flétrissement et de la mort de ces précieuses éclosions de vie, qui se manifestèrent chez beaucoup au commencement des derniers troubles dans ces nations, avec la manière propre de recouvrer cela pour ceux qui sont en cet état. Pennington nous dit que les débuts du mouvement puritain en Angleterre reposaient sur la direction du Saint-Esprit, mais qu'ils se détournèrent rapidement vers l'erreur ou vers une forme, et qu'ils perdirent le fondement et la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, dans quelques propositions concernant la seule voie du salut, où il est donné une réponse à cette grande objection, à savoir que la lumière qui convainc de péché est la lumière d'une conscience naturelle, et où l'on rend un bref compte du fondement de la compréhension qu'ont les hommes des Écritures. Troisièmement, en exposant à la vue le principe fondamental de l'Évangile, sur lequel est édifié l'Esprit racheté. Et quatrièmement, dans quelques questions et réponses, sous forme de catéchisme, pour l'amour des cœurs simples, orientant vers ce principe et y affermissant. Par Isaac Pennington 1659, quand Éphraïm parlait, on tremblait, il s'élevait en Israël, mais lorsqu'il a offensé par Baal, il est mort, et maintenant il pêche de plus en plus, etc., c'est pourquoi ils seront comme la nuit du matin, comme la rosée du matin, etc. Os 13 1-3. Oui, sa source deviendra sèche et sa fontaine sera tarie. Verset 15. Nous avons tous été comme des brebis errantes, mais béni soit le bras éternel qui a rassemblé l'un quelconque d'entre nous auprès du berger et de l'évêque de nos âmes. Oh, venez à la bergerie, ô brebis dispersées, venez à la bergerie. N'errez plus de montagne en colline, mais souvenez-vous de votre lieu de repos, de l'ancien lieu de repos d'Israël, la montagne de la maison du Seigneur, où Israël peut se coucher et paître en paix, et où nulle bête ravissante ne peut troubler. Ô maison de Jacob, que la prostitution, le vin et le vin nouveau ne dérobent plus vos cœurs, mais venez, marchons dans la lumière du Seigneur. Préface: mon peuple a commis de grands maux, ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Cela a toujours été une plainte fréquente du Seigneur au sujet d'Israël, du commencement à la fin. Le Seigneur prenait plaisir à engendrer, nourrir et élever ce peuple pour lui-même, mais il se révoltait presque continuellement contre lui et se rebellait. Il fit pour eux de grandes choses, mais ils l'oublièrent encore. Il les racheta par son bras étendu, il les nourrit, il les défendit, mais ils ne le connurent pas. Ésaïe 1, 3, ils se parèrent des ornements qu'ils tenaient de lui, puis l'abandonnèrent, et en vinrent à lever le talon contre lui. Ésaïe 16, 16, 17, et 2, 32, 15, et PS 41, 9. En termes simples, ils prirent de lui tout le savoir qu'ils purent mettre dans leur propre vase, puis ils se mirent à leur compte, vivant pour eux-mêmes, sans de nouveaux jaillissements de vie venant de la source d'où leur connaissance provenait. Les prêtres ne disaient pas « Où est le Seigneur ?» mais ils savaient manier la loi et en enseigner la connaissance en lui, et les prophètes pouvaient prophétiser par un autre esprit. Jer 2, 8. Ainsi le Seigneur Dieu de vie ne vivait pas en eux, mais ils vivaient de choses qui autrefois étaient venues de la vie. Cependant, séparées de la source, elles étaient mortes et ne nourrissaient que la part morte en eux, celle qui est étrangère à Dieu. Ainsi, quoique leur profession fût grande et qu'ils multipliaient prières, sacrifices et jeûnes, et qu'ils s'approchaient de Dieu des lèvres, leur cœur pourtant était loin de lui. Ils avaient abandonné la source, ils ne buvaient pas aux eaux de la fontaine, du rocher qui les suivait, mais ils buvaient aux eaux de leur propre citerne. Ils établirent, pour leur lumière, cette connaissance de la loi qu'ils avaient taillée avec les outils de leur propre entendement, sans l'esprit qui écrivit la loi. Telle fut l'erreur d'Israël autrefois, ils buvaient très aisément aux eaux de la loi, mais ils ne la buvaient pas à la source, ils la buvaient aux citernes qu'ils s'étaient creusées eux-mêmes. Les Juifs n'écoutaient pas la voix du Seigneur, ils ne faisaient que lire l'Écriture ou écouter le prêtre la lire. Pourtant, l'Ancien Testament est rempli de nombreux avertissements contre le fait de ne pas écouter la voix du Seigneur. Ils entendaient manifestement les avertissements, mais pensaient en être exemptés parce qu'ils lisaient l'Écriture et assistaient aux divers offices, fêtes et cérémonies. Comme il en fut ainsi pour Israël autrefois, ainsi en a-t-il été pour Israël depuis. L'Israël chrétien a toujours rétrogradé, a toujours oublié le Seigneur. Prenant encore ce qu'ils pouvaient de lui pour vivre pour eux-mêmes, mais refusant de vivre de lui, prenant de l'Écriture ce qu'ils pouvaient de connaissances sans lui, prenant ce qu'ils pouvaient de leurs exercices et de leurs expériences, mais négligeant la source de leur vie. Et ainsi cet Israël aussi meurt, cet Israël de même se flétrit et devient un objet de moquerie pour les païens. Car bien qu'ils prononcent de grandes paroles sur leur Dieu, eux-mêmes pourtant ne sont que comme les païens, incirconcis comme eux, étrangers à la vertu et à la puissance de la vie comme eux, luttant toujours contre le péché avec ce qui ne peut vaincre, et ainsi ils sont aussi esclaves de leur convoitise et de leur corruption, comme les païens, et ne connaissent pas la vérité qui rend réellement libres. L'apostasie de ce siècle a été extrêmement grande. Puissante fut l'apparition de Dieu intérieurement dans l'esprit de son peuple. Puissante fut l'apparition de Dieu extérieurement dans la nation. Il y eut bien des voix et de grandes espérances d'une réforme complète. Mais combien soudain l'esprit pur du Seigneur fut oublié, abandonné, et son œuvre renversée, au-dedans et au-dehors, intérieurement dans l'esprit de son peuple, et extérieurement dans la nation, dont la révolte n'était qu'un type de la révolte intérieure. Combien l'esprit du Seigneur s'est-il lamenté après son peuple, les reprenant souvent pour leur retour en arrière. Mais ils ont été, comme Israël autrefois, comme un aspic sourd, se justifiant et se plaignant contre les témoins de Dieu, comme Israël se plaignait de ses prophètes, qui, de la part du Seigneur, témoignent contre eux. Il ne peut en être autrement, car les eaux mortes des citernes qu'Israël s'est creusées ne s'accorderont jamais avec les eaux de la fontaine vivante, mais résisteront à leur témoignage. Comment l'enchanteur pourrait-il charmer assez sagement pour faire écouter sa voix à Israël apostat ? Je n'ai pas rétrogradé, disait l'un dans une forme, je n'ai pas rétrogradé, disait un autre dans une autre forme, je n'ai pas rétrogradé, disait l'un dans une notion, je n'ai pas rétrogradé, disait un autre dans une autre notion, je crois, j'espère et j'attends dans ce que le Seigneur a déjà révélé, et je poursuis afin de le connaître. Tel a été votre comportement depuis votre jeunesse, vous n'avez pas obéi à ma parole, mais vous vous êtes toujours justifié comme si vous aviez obéi. Et pourtant vos retours en arrière sont écrits sur vos fronts, comme avec la pointe d'un diamant. Car qui parmi vous garde sa fraîcheur, démonstration évidente que vous vous êtes éloigné de la source, et que vous tenez votre connaissance, vos expériences et vos espérances dans la part morte, et votre meilleur appui de consolation est le souvenir de ce que vous aviez autrefois. Ah, pauvres âmes stériles et mortes, est-ce là votre meilleur soutien ? Revenez, revenez, entrez dans la maison du deuil, et que les vivants y prennent garde. Le troupeau dispersé recherchait une lamentation, avec un appel au deuil et à la lamentation. Ô Israël, la semence royale, la plante illustre, la progéniture vivante de l'éternité. Ô fille de Sion, qui jadis resplendissait de la beauté et de la gloire de la vie, qu'es-tu devenue ? Comme tu es tenue captive et enchaînée à Babylone, comme tu gis souillée parmi les marmites, comme les ailes de ta colombe sont coupées, comme tu es couverte et souillée de la fange de toute la terre. L'Israël dont Pennington écrit est l'Israël spirituel, non le pays d'Israël. Israël renvoie au christianisme. Ô entonnez une lamentation, pleurez, ô Israël, lamentez-vous, ô filles de Jérusalem, déplorez votre veuvage, votre désolation, la perte de votre époux, votre triste captivité, votre bannissement hors de votre propre pays, et votre servitude dans le pays de votre ennemi. Qu'est devenu votre Dieu, le Dieu puissant de Jacob, dont le bras étendu a pu sauver et racheter sa semence hors de la servitude ? Quel ennemi a pu tenir devant lui ? Quel sanglier de la forêt, ou quelle bête sauvage des bois, pouvait pénétrer dans sa vigne tant qu'il en gardait la clôture ? Où est ce bras qui frappa Rahab et tua le dragon ? Où est ce crochet qu'il se montrait d'ordinaire disposé à mettre dans les narines du Léviathan ? Pharaon est vivant, les sages égyptiens ont du pouvoir. L'Égypte tient la semence en servitude. Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, sont tous capables de frapper Israël et de boucher les sources de la vie. Réveille-toi, ô bras du Seigneur, et réveille Israël, afin que tu deviennes de nouveau son sauveur aux yeux de toutes les nations, et que toute la maison d'Israël, étant réveillée, se lamente dans l'esprit du Seigneur après le Seigneur. Qu'est devenu votre Messie, loin du Seigneur, le chef de l'armée du Seigneur, l'ange de l'Alliance de vie, dont la coutume était d'entrer et de sortir devant vous en combattant les batailles du Seigneur, qui était votre prince et votre sauveur dans le pays de paix et de repos, qui marchait au milieu des chandeliers, qui était votre roi, votre berger, votre temple dans lequel vous adoriez, et la lumière éternelle de votre vie dans la terre des vivants. Qu'est devenu cet Esprit Saint qui vous vivifiait, vous rendait vivant pour Dieu, et qui vivait en vous après que vous eûtes été vivifié, qui vous gardait vivant en celui qui vit, et vous faisait goûter continuellement la douceur de la vie ? Où est l'onction qui vous couvrait tout entier de l'huile de joie et de salut ? Où est le Consolateur qui rafraîchissait continuellement votre esprit et vous conduisait dans toute la vérité, vous enseignant toutes les choses de Dieu selon la mesure de votre croissance dans la vie ? Où est l'Esprit de votre Père, qui vous animait de la nature de votre Père, qui engendrait et faisait naître en vous la vie, la puissance, la gloire, la majesté, l'éternité de votre Père ? Qu'est devenu Sion, la montagne sainte où vous étiez édifiés ? Sion, la forteresse de la sainteté, où est-elle ? Qu'est devenu Jérusalem, la ville sainte, votre mère, où vous êtes né ? Qu'est devenue cette alliance de vie, dans le sein de laquelle vous fûtes engendrés et enfantés, et par le lait et le souffle de laquelle vous fûtes ensuite nourris et élevés ? Où sont tous les fruits de la terre sainte, les raisins agréables, les figues douces, les olives précieuses qui donnaient du vin et de l'huile pour réjouir le cœur et rafraîchir le visage du Seigneur de vie ? Où est la joie dans le Seigneur, l'obéissance au Seigneur, la prière, la louange, la vie, la marche dans son esprit, l'entrée dans son pur entendement et la production de fruits en lui, dans sa volonté sainte et sans tache, et le mouvement dans le cœur purifié. Hélas, hélas, Babylone a prévalu, son roi a régné. Sion a été tenu en chaîne, et ce qui a poussé sous son nom a été la progéniture immonde de Babylone, la semence de la mère des prostituées, et ceux-ci ont porté du fruit aigre, un fruit odieux, finement peint pour l'œil qui ne peut en sonder le fond, mais odieux dans sa nature. Tel a été l'état de l'apostasie depuis les jours des apôtres. Ce qui n'a pas été de Dieu a régné, et ce qui a été de Dieu a souffert et a été outragé comme si cela n'avait pas été de Dieu. Et cela a haleté et s'est lamenté après le jaillissement de la source de sa vie et son rassemblement en elle. Le profond sentiment de cela a affligé mon âme dès mes jeunes années, le témoin éternel s'éveillant en moi, et la lumière éternelle me manifestant la ténèbre tout du long, bien que je ne susse pas que c'était la lumière, mais que je m'efforçais de mesurer ses apparitions en moi par des paroles qu'elle-même avait autrefois dites à d'autres, et que j'établissais ainsi mon propre entendement et ma propre compréhension comme mesure, bien que je ne m'en aperçusse ni ne pensasse alors le faire. Ainsi, continuellement, par ignorance, je tuais la vie et je me vendais pour une chose de néant, c'est-à-dire pour une telle apparence de vie que ma faculté de compréhension jugeait la plus conforme aux Écritures. Le Seigneur souffla dessus, bien que sa beauté fût indicible, la vie nourrissant encore mon esprit par-dessous, d'où jaillissait une beauté et une fraîcheur intérieure. Alors un tel jour, ou plutôt une telle nuit, de ténèbres et de détresse me surprit, qu'un cœur des plus durs fondrait à en entendre le récit. Pourtant le Seigneur était dans ses ténèbres, il me préserva et me formait pour lui-même, et le goût que j'eus alors de lui dépassait de beaucoup tout ce que j'avais connu auparavant dans la veine la plus pure de ma religion. Et le Seigneur ferma puissamment mon entendement et préserva ma vie du traître, mais pourtant ce sur quoi le tentateur pouvait agir n'était pas entièrement détruit en moi. Le Seigneur lui permit de tendre un piège, et mes pieds furent pris sans que je m'en aperçusse, à tel point que la simplicité fut trahie, et que la part charnelle devint sage par ces exercices mêmes par lesquels le Seigneur m'avait éprouvé. Cela m'empoisonna, cela me blessa, cela frappa à la racine de ma vie, et la mort grandit insensiblement en moi. Le diable, l'envieux semeur, me trompa avec l'image de ce que j'avais auparavant eu dans la vérité, ouvrant ma faculté de compréhension, par la subtilité de la tentation et de la tromperie que le Seigneur détruisait, et laissant entrer ce que le Seigneur avait tenu dehors. Alors le Seigneur retira et ferma à cette part ce qu'il avait auparavant ouvert à la semence, par quoi la voie de la vie fut fermée, et la voie de la mort ouverte en mystère. Alors je pouvais parler d'amour universel, de liberté spirituelle, etc. Et attendre la glorieuse apparition de la vie, ayant perdu ce qui m'avait auparavant donné le sens de sa nature. Oui, à la fin, je pouvais chercher auprès des créatures ce qu'elles pouvaient donner, et m'efforcer de faire passer le temps de ma misère sans la présence immédiate de la vie du Créateur. Quant à ce peuple méprisable, les premiers Quakers, que je reconnais maintenant dans le Seigneur, je pouvais les mesurer, je pouvais les sonder, je pouvais reconnaître leur position, et pourtant voir leur insuffisance, et je pouvais avec satisfaction pour mon esprit, écrire la mort sur eux, comme l'issue de cette dispensation de vie dans laquelle je les voyais entrer, et où j'étais entré en partie. Telle était ma position lorsque le Seigneur tira son épée contre moi et me frappa au plus intime de mon âme. Par ce coup, demeurant un moment sous celui-ci, mes yeux en vinrent à s'ouvrir, et alors je vis l'aveuglement de cet œil qui pouvait voir si loin, et l'étroitesse de ce cœur et de cet esprit qui était si large et si vaste pour comprendre. Et mon âme se courba devant le Seigneur pour qu'il tue cela, affame cela, rende cela fou. Oui, mon désir était, au niveau du ressenti, aussi grand après la mort de cela qu'après la jouissance de la vie dans le Seigneur. Et maintenant cela avait ouvert en moi une source nouvelle de tristesse, un deuil sur le juste que j'ai moi-même tué. Oh, avec quelle cruauté, combien de fois ai-je assassiné ce qui venait me donner la vie? Combien de fois ai-je cherché à faire vivre, dans la religion, mon propre entendement, ma propre compréhension, ma propre volonté et mes affections, et à faire mourir le principe juste, pur et immortel? Bien que je ne la place pas alors le mien, comme d'autres hommes ne le font pas aujourd'hui, mais que je le prisse pour quelque chose de Dieu et pour la chose qui devait vivre, car moi aussi j'étais trompé, et je pensais que le bâtard, qui était une fausse conception, devait hériter, ne le sachant pas bâtard, mais le prenant pour l'héritier légitime. Mon âme s'élargit extrêmement en moi envers ceux qui, en ce temps-ci, gisent sous le pouvoir de la même tromperie, qui ont tué le Seigneur de vie comme je l'ai fait, et chez qui la nature contraire vit sous un voile, qui ne peuvent en aucune manière voir que ce qui vit maintenant en eux n'est pas l'héritier, jusqu'à ce que le même œil s'ouvre en eux. La vie qui s'agitait au commencement des troubles de ces nations était très précieuse. Elle unissait à Dieu, elle unissait les uns aux autres, elle allumait un sentiment universel de la captivité, de la servitude, de la grande oppression d'Israël, et un cri commun montait vers Dieu pour la délivrance. Et Dieu entendit le cri, et se leva pour délivrer, et commença à briser le joug, tant extérieurement dans la nation qu'intérieurement dans l'esprit des gens. Pennington fait référence au début du mouvement puritain, qu'il dit très précieux, mais il poursuit en montrant que la vérité fut rapidement perdue. Mais le tentateur se remit aussi à l'œuvre pour enlacer Israël. À cette fin, il fait paraître des ressemblances de ce qu'Israël désirait et recherchait. Il fait paraître diverses formes de culte pour en attirer certains, diverses sortes de notions pour en attirer d'autres, de nouvelles apparitions de vie, d'amour, de liberté, pour tenter le peuple de Dieu de se détourner et de ne plus suivre cet esprit qui s'était levé pour délivrer. Ainsi il s'avance et l'emporte, il divise dans Jacob et disperse en Israël, tirant une partie vers cette forme, une autre vers cette forme-là, l'un vers cette notion, l'autre vers cette autre, l'un vers cette image intérieure, l'autre vers cette idole spirituelle, et tous loin de la vie, tous loin de la puissance, tous loin du Sauveur, tous loin du Libérateur, et ainsi l'œuvre s'arrête. Elle s'arrête dans la nation, et elle s'arrête dans l'esprit des gens, et, en général, les hommes font volte-face, rentrent de nouveau et s'appliquent à faire des images semblables aux images qu'ils avaient détruites, et ainsi la captivité revient. Israël est ramené dans ses liens, et l'esprit qui l'opprimait auparavant l'écrase de nouveau et règne sur lui. La brèche a été si grande en Israël que l'esprit du monde s'est endurci et pense que cette œuvre de Dieu est terminée. Et maintenant ils peuvent de nouveau oser établir l'Église et l'État sur les anciens principes de cette sagesse que le Seigneur ébranlait. Où sont maintenant le peuple que le Seigneur rachetait? Où sont les gens de prière, les gens haletants, les gens en deuil, ceux qui auraient pu voyager de mer en mer pour que la volonté de Dieu leur soit révélée? Ne se sont-ils pas précipités dans la terre? L'esprit de la terre n'est-il pas venu sur eux? Ne se partage-t-il pas le butin? Le juif intérieur, la nature renouvelée s'est enfoncée, s'est perdue, est devenue une proie, le gentil, l'esprit païen s'est levé et s'est assis dans une forme de culte, ou dans quelque haute notion de connaissance, dont cet esprit, qui ne connaît pas l'arbre de vie, aime à se nourrir. Certains sont raides morts, sans aucun sentiment en eux, la vie entièrement engloutie par la mort, d'autres, peut-être, pressent encore vers le royaume, mais dans une mauvaise nature, dans ce qui n'obtiendra jamais. Ils peuvent y rencontrer quelques jouissances, mais non des jouissances provenant de la chose vraie ou appartenant à elle, seulement la ressemblance que l'ennemi a peinte pour les tromper. Ils peuvent aussi attendre et espérer que le royaume vienne, et pourtant être hors de ce qui connaît sa venue et qui seul peut préparer le cœur à son apparition. Oui, certains sont montés si haut qu'ils sont même sur le trône. Ils ont l'amour, la vie, la liberté, la joie, la paix du royaume, comme ils l'imaginent. Ils peuvent régner comme des rois sans nous, sans cette nature et ce principe où réside notre vie. Mais ces puissants, ces princes, le Seigneur les arrachera de leur siège, et il relèvera l'humble, le doux, le cœur bas, le mendiant sorti du fumier, et lui donnera le trône de sa gloire. Or, cette vie qui est en moi, dans l'amour, vous dites à tous, comme la manière propre et unique de votre rétablissement et de votre rédemption, venez à ce qui peut vous juger. Sion sera rachetée par le jugement, et ceux qui y reviennent par la justice. Si Sion doit être rachetée, si la semence doit être relevée, cet esprit qui s'est élevé au-dessus d'elle et la tient abaissée doit être jugé et abaissé par le jugement. Comment Israël autrefois devait-elle être délivrée de ses idolâtries et de ses prostitutions, sinon en reconnaissant et en venant à cette lumière des prophètes qui la manifestaient et la jugeaient? Vous aussi, vous avez adoré des idoles, vous aussi, vous vous êtes prostitués loin du Seigneur, et vous vous êtes enflammés pour des idoles sous tout arbre verdoyant. Chaque idole nouvelle, chaque apparence fraîche, chaque ressemblance vivante, vous a tenté à vous détourner du Dieu vivant. Quand une voie de culte est devenue sèche et stérile, vous l'avez laissée. Quand certaines notions des choses vous ont paru vides et superficielles, vous vous en êtes lassés. Mais l'idole suivante, sous l'arbre verdoyant suivant, vous a attiré dans le lit de la prostitution, où vous avez perdu la véritable communion avec le vrai Dieu de vie, et où vous avez été trahi quant à la semence de vie qu'il avait commencé à vivifier et à relever d'entre les morts. Maintenant, venez à ce qui juge l'idole, le faiseur d'idole, l'esprit prostitué qui détourne du vrai époux, et cet esprit qui est susceptible d'être tenté, et que ceci soit abattu par le jugement, et alors la vraie semence de vie jaillira et refleurira. Il n'y a pas d'autre voie, ne vous laissez pas tromper. Il faut qu'en vous s'éveille ce qui peut vous juger et qu'il produise en vous son jugement jusqu'à la victoire, si jamais la vie en vous doit se lever et dominer la mort. Cet esprit qui règne maintenant en vous et tient la vie abaissée le sait très bien, et c'est pourquoi il s'efforce de toutes ses forces de vous empêcher de reconnaître le jugement. Il voudrait volontiers empêcher que la lumière chez les autres ne vous juge. « Ne jugez pas, disait l'esprit trompeur, tout jugement est remis au Fils. C'est vrai, mais la lumière du Fils ne jugera-t-elle pas ? La lumière de cette chandelle que le Seigneur a allumée dans un cœur ne découvrira-t-elle pas ? Et ne jugera-t-elle pas les ténèbres dans un autre cœur? La lumière rend manifeste, et sa manifestation est son jugement. L'énonciation des paroles n'est que la déclaration de ce que la lumière dans le cœur a déjà fait, et ne peut que faire, car tant qu'elle est lumière, partout où elle vient, elle découvrira et jugera nécessairement les ténèbres qu'elle rencontre, bien que les ténèbres ne puissent reconnaître ni sa découverte ni son jugement, et qu'elles doivent s'y opposer. Or, si l'esprit mauvais ne peut empêcher cela, ce qui est absolument impossible à l'esprit de ténèbres, alors, en second lieu, il fortifie et endurcit autant qu'il peut le cœur contre la réception du jugement, en le persuadant de le considérer comme le jugement d'un autre esprit comme le sien, et non comme le jugement de la lumière. Ainsi, ce que Paul disait du jugement des hommes, que c'était peu de chose pour lui d'être jugé par un jugement humain, l'homme trompé le dira aussi de ce jugement-ci. Et pourtant, de même que le plus grand jugement de l'homme, dans l'expression la plus haute de la faculté de compréhension, tombera, de même le plus petit jugement de la lumière, dans l'enfant le plus faible demeurera, et tous les orgueilleux de la terre tomberont en leur temps devant lui, bien que maintenant, dans l'élévation présente de leur pensée, ils puissent s'élever au-dessus et le fouler. N'ayez donc pas peur de juger la tromperie, ô vous, les faibles, mais assurez-vous que la lumière seule en vous juge, et tenez-vous très bas dans la lumière, afin que la part que la lumière en vous juge chez les autres ne se lève pas en vous pendant que la lumière se sert de vous pour la juger chez les autres. La lumière est le Saint-Esprit, ou Christ en vous. Quand vous êtes mûr, Christ peut vous commander d'aller vers une certaine personne et de prononcer ses jugements sur elle. Mais ce n'est pas vous qui portez un jugement, le juste juge, le juge parfait, le juge infiniment sage rend le jugement. Maintenant, vous, pauvres âmes perdues, qui sentez le besoin du jugement et qui trouvez en vous quelque disposition à l'embrasser, attendez dans l'espérance et le silence d'abord le lever du juge d'Israël dans vos cœurs, puis attendez l'union de vos cœurs à lui, l'un et l'autre se faisant par sa lumière éternelle, qui manifeste et donne sa vie. Dans le plus faible éclat de cette lumière, il y a le jugement, et il y a le roi lui-même, qui n'est pas séparé du moindre degré ni de la moindre mesure de sa propre lumière. Inclinez-vous devant lui, baisez ses pieds, connaissez la nature de la chose et soumettez-vous y. Adorez-le ici dans son humiliation, recevez-le dans ses coups, dans ses frappes, et observez et détournez-vous de ce qui, en vous, le frappe. Et un jour vous le verrez dans sa majesté, dans la puissance de son amour, dans ses guérisons et ses embrassements éternels. Sachez assurément que ce qui ne veut pas l'adorer ici ne sera pas apte à l'adorer là-bas, et ne l'adorera pas, mais ne fera que trembler devant la terreur de sa majesté et être confondu par la douceur de son amour, sans pouvoir s'y incliner dans la vraie vie. Car cet esprit qui est hors de la vie est exclu, dans ses désirs, ses espérances, ses acquisitions, ses jouissances, son repos en apparence spirituelle, son amour universel, sa liberté et sa paix, aussi bien que dans ses voies les plus sombres et les plus grossières de souillures. Attendez donc de connaître la nature des choses, afin de ne pas être trompé par les apparences de mort les plus hautes, les plus choisies et les plus puissantes sous l'image la plus exacte de la vie, ni de trébucher sur la vraie vie, dans son apparence la plus basse et la plus faible. Cela, vous ne pouvez l'atteindre que par une naissance et une croissance dans la vraie sagesse, laquelle tue cet esprit qui vit des mêmes choses dans la compréhension et amasse un capital de connaissances et d'expérience dans sa propre faculté d'entendement. Ce sont des paroles d'un amour tendre, et elles seront aussi des paroles de vraie vie là où la terre du Père s'ouvre pour les boire, et à son bon plaisir et à sa bénédiction mon âme les recommande. George Fox écrit sur le même sujet, « Mais vous tous qui êtes dans votre propre sagesse et dans votre propre raison, vous dites que l'attente silencieuse devant Dieu est pour vous une famine. C'est une vie étrange pour vous d'en venir au silence. Il vous faut entrer dans un monde nouveau, comme vous devez mourir dans le silence, mourir à la sagesse, mourir au savoir, mourir à la raison, mourir à l'entendement. Ainsi, lorsque vous en venez à sentir ce qui vous amène à attendre Dieu, vous devez mourir à l'autre ce qui résiste au silence et se sent affamé dans le silence. C'est cela mourir dans le silence qui vous amène à sentir la puissance d'une vie sans fin, et vous en venez à la posséder, dans l'attente silencieuse devant Dieu, vous en venez à recevoir la sagesse d'en haut par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et elle donne un entendement et une raison clairement différents de ceux de l'homme terrestre. Cette vie de Dieu en vous est ce qui vous amène à attendre Dieu et connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Pour vous, ceci est la parole du Seigneur Dieu. Quelques propositions concernant la seule voie du salut. 1. Qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé du péché et de la colère éternelle que par ce Christ seul qui mourut à Jérusalem. Il n'y a sous le ciel aucun nom, aucune vertu, aucune vie, aucune puissance donnée par laquelle l'homme perdu puisse être sauvé, sinon la sienne seule. 2. Qu'il n'y a pas moyen d'être sauvé par lui autrement qu'en le recevant dans le cœur par une foi vivante et en le laissant être formé dans le cœur. Christ ne sauve pas tant qu'il demeure dehors à la porte, frappant, mais lorsqu'on le laisse entrer, et une fois entré, il apporte avec lui cette vie, cette puissance et cette miséricorde qui abattent le mur de séparation, unissent à Dieu et sauvent. Les Juifs ne pouvaient autrefois être sauvés par la croyance en un Messie à venir, avec l'observation de toutes les lois et ordonnances de Moïse. Pas plus que quiconque aujourd'hui ne peut être sauvé par la croyance en un Christ historiquement venu, avec l'observation de tout ce que les apôtres ont ordonné ou pratiqué, mais seulement par le fait de le recevoir dans son cœur, où il opère le salut. 3. Qu'il n'y a pas moyen de recevoir Christ dans le cœur, et de l'y voir formé, autrement qu'en recevant la lumière de son esprit, dans laquelle lumière il était demeure. Écartez la lumière de son esprit, et vous écartez Christ, laissez entrer la lumière de son esprit, et vous laissez entrer Christ, car le Père et le Fils sont lumière, et ne sont connus et reçus que dans la lumière, et jamais hors d'elle. 4. Que la manière de recevoir dans le cœur la lumière de l'esprit, et de s'unir ainsi avec le Père et le Fils, est d'écouter et de recevoir ses convictions de péché en ce lieu. La première opération de l'esprit envers l'homme qui gît dans le péché est de le convaincre du péché. Et celui qui ne reçoit pas la lumière convaincante de l'esprit, l'œuvre s'arrête en lui dès le commencement, et Christ ne peut jamais en venir à être formé en lui, parce que la lumière par laquelle il devrait être formé est tenue dehors. Alors il peut parler de Christ, pratiquer des devoirs, prier, lire, et beaucoup contempler, tirer des consolations des promesses, courir aux ordonnances, être extrêmement zélé et affectueux en tout cela, et pourtant périr à la fin. Oui, le diable le laissera tranquille, sinon l'aidera en tout cela, sachant qu'il le tient d'autant plus sûrement ainsi, l'homme étant, par l'observation stricte de ces choses, tenu à l'écart de la crainte du danger de son état, dont autrement il pourrait peut-être être rendu sensible. Objection, mais je puis être trompé en écoutant une lumière au-dedans, car tandis que je pense écouter en cela la lumière de l'esprit, il pourrait s'avérer que ce n'est que la lumière d'une conscience naturelle. Réponse 1. Quand bien même ce ne serait que la lumière d'une conscience naturelle, si elle vous détourne du péché qui sépare de Dieu, et vous prépare ainsi à comprendre, croire et recevoir ce que l'Écriture dit de Christ, ce n'est pas une très mauvaise tromperie. Mais si au bout du compte, il s'avérait que c'était la lumière de l'esprit et que vous l'ayez toute votre vie, prise pour la lumière d'une conscience naturelle et l'ayez donc méprisée ou du moins négligée sinon même décriée, vous découvrirez alors que c'était une très mauvaise tromperie. Réponse 2. Je puis vous montrer par une Écriture explicite que c'est l'œuvre de l'esprit de convaincre de péché. Jean 16, 8. Et encore que la loi, qui est spirituelle, manifeste ce qui est corrompu et charnel. Rome 7, 14. Mais où pouvez-vous me montrer par l'Écriture qu'une conscience naturelle puisse convaincre de péché ? Réponse 3. Que tout homme prête attention à la lumière dans son cœur, il la trouvera capable de découvrir ses mots les plus intimes, les plus secrets, les plus spirituels, ce qu'une lumière naturelle ne peut faire, car ce qui est naturel ne peut découvrir ce qui est spirituel. Réponse 4. L'apôtre a dit que c'est la grâce apparue à tous les hommes qui enseignent non seulement la piété, mais aussi la sobriété et la justice. Tite 2, 11-12. La lumière de la nature déchue est ténèbre et ne peut rien enseigner de Dieu. Tout ce qu'un homme apprend maintenant de la vraie connaissance de Dieu, il l'apprend par la grâce, qui brille dans les ténèbres de la nature de l'homme, pour la pénétrer du vrai savoir, bien que l'homme, étant ténèbre, ne puisse en aucune façon la comprendre et ne puisse donc lui donner son vrai nom. Prenez donc garde, de peur que par ignorance, vous ne blasphémiez la sainte lumière du pur esprit, appelant naturel en la regardant avec l'œil charnel ce qui, avec l'œil spirituel, se voit spirituel. Car vous qui faites cela, vous vous tromperez aussi de l'autre côté, appelant spirituel vos significations et conceptions charnelles au sujet de la pensée de l'Esprit de Dieu dans l'Écriture. Et celui qui met ainsi les ténèbres pour la lumière met nécessairement la lumière pour les ténèbres, et appelle alors le mal bien et le bien mal, et s'égare ainsi loin de l'Esprit de Dieu dans tout le cours de sa religion, jusque dans ses exercices les plus intérieurs. L'homme, par nature, est mort dans les offenses et les péchés, tout à fait mort, et sa conscience est entièrement dans les ténèbres. Ce qui lui donne le sentiment de sa mort et de ses ténèbres doit être autre chose que sa nature, à savoir la lumière de l'Esprit de Christ, brillant dans son cœur et sa conscience obscure. C'est la semence de la femme qui non seulement détruit, mais découvre aussi, toutes les œuvres du serpent. Or cette semence, cette lumière, est une en tout, bien qu'il y en ait eu diverses dispensations. Une dispensation de lumière pour les païens, chez qui elle jaillit d'une manière cachée, comme si elle était naturelle, d'où lui vint le nom de lumière de la nature, bien qu'il s'agisse du mystère de la vie et du salut caché en eux, Col 1, 27, ce mystère en les gentils, cela a été mal traduit par parmi. Une autre pour les juifs, chez qui elle était plus rigoureusement remuée par une loi donnée, qui devait, par des types et des ombres, et par des exercices justes selon la loi, les réveiller au principe vivant. Michée 6, 8. Une autre pour les chrétiens, ceux qui ont été rendus sans péché, chez qui elle fut vivement amenée à la lumière et à la vie par une dispensation spéciale de grâce, au point que ce qui était le mystère chez les gentils, et voilé aux juifs, une fois ouvert en eux, fut trouvé être Christ l'espérance. Col 1, 27. Mais sous toutes ces dispensations, la généralité des hommes n'a pas atteint la gloire de Dieu et a manqué la substance. C'est pourquoi le Seigneur Dieu fait maintenant surgir la substance elle-même, mais sous un voile tel qu'il la cache à l'œil de la sagesse de l'homme, sous quelque dispensation qu'il soit, et quelque élevé qu'il soit dans cette dispensation. Aux uns cela semble naturel, aux autres légal, à certains cela semble venir de la puissance de Satan ou du moins ils le prétendent, à d'autres cela semble être le ministère de Jean-Baptiste. Ainsi les hommes l'estiment dans la sagesse de leur compréhension, faute de la vraie ligne et du vrai fil à plomb pour la mesurer. Maintenant, à vous qui n'avez pas attendu d'apprendre, dans la sagesse de Dieu, les noms des choses qui y sont données selon leur nature, mais qui, dans la précipitation de vos esprits, à partir de vos connaissances amassées sans la puissance vivante, avez osé appeler naturel ce qui, dans la sagesse éternelle, se voit être spirituel, et qui a été capable d'accomplir ce que tout ce savoir que vous appelez spirituel n'a jamais pu faire, je propose à vos consciences devant Dieu la considération d'un seul passage de l'Écriture. L'Écriture est celle de Job 28, 12, 28, jusqu'à la fin, où trouvera-t-on la sagesse et quel est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. On ne l'obtient pas pour de l'or, et l'argent ne se pèse pas pour en donner le prix. D'où donc vient la sagesse, et quel est le lieu de l'intelligence, puisqu'elle est cachée aux yeux de tous les vivants, et tenue à l'écart des oiseaux du ciel? La destruction et la mort disent, nous en avons entendu la renommée de nos oreilles. Dieu en comprend la voix et il en connaît le lieu. Et il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Maintenant considérez bien, premièrement, est-ce la sagesse naturelle ou la sagesse spirituelle qui est si précieuse? Qu'est-ce donc que la destruction et la mort ont entendu proclamer? Est-ce la sagesse de la nature ou bien est-ce Christ la sagesse de Dieu? Deuxièmement, où est le lieu de celle-ci? Où Dieu indique-t-il à l'homme de trouver cette sagesse, il l'oriente vers la crainte, à l'homme il a dit, il t'a montré, ô homme. Ce qui est bon, voici, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Va vers la crainte, là elle est enseignée, c'est cela la sagesse. Apprends par la crainte à te détourner du mal, voilà l'intelligence. C'est cela qui est si précieux que rien ne peut égaler ni estimer, en voici le lieu, c'est ainsi qu'elle doit s'apprendre. Le péché couvre toute la terre des ténèbres. Il n'y a là aucune crainte de Dieu devant les yeux des hommes, il n'y a là aucun apprentissage de la crainte. Toute la sagesse à laquelle l'homme peut parvenir ne peut l'enseigner. Celui qui apprend à craindre Dieu, à se détourner du mal, doit apprendre de Christ, la sagesse de Dieu, et doit renier toutes les variétés de la sagesse de l'homme, qui entreprend d'y atteindre mais ne le peut. Apprendre de Christ n'est pas lire à son sujet dans la Bible, ni écouter quelques prédicateurs parler de Christ depuis son esprit charnel. Apprendre de Christ, c'est apprendre de Christ, apprendre en attendant en silence, en écoutant, en veillant, en entendant, en croyant que ce qui a été entendu est vrai, et en obéissant ou en mettant en pratique et en gardant l'enseignement entendu. Troisièmement, qu'est-ce qui en l'homme enseigne la crainte? Qu'est-ce qui enseigne à se détourner du mal? Tout homme a en lui un œil qui voit le mal. Quel est cet œil que le Dieu de ce monde s'efforce tant d'aveugler et qu'il aveugle généralement? Tout homme a en lui un ennemi du mal, quelqu'un qui n'y a jamais consenti, mais qui le réprouve encore et lutte contre lui, même en secret. Qu'est-ce donc? Ce n'est rien de moins qu'un rayon venant de Christ, la sagesse de Dieu, jaillissant du siège de la crainte dans chaque cœur, pour conduire dans la crainte, où s'apprend la loi de l'éloignement de l'iniquité. Et ainsi ce rayon, écouté et suivi dans la crainte, élève dans l'amour, dans la vie, dans la lumière, dans la sagesse, dans la puissance. Ne fermez pas les yeux maintenant, ô vous les sages, mais ouvrez vos cœurs et laissez entrer ce qui y frappe, ce qui peut et veut vous sauver, si on le laisse entrer, et qui seul peut vous sauver. Car ce n'est pas une notion d'un Christ extérieur, avec des multitudes de pratiques de renoncement à soi et de mortification qui s'ensuivent, qui peut sauver, mais Christ a entendu frapper et reçu dans le cœur. Cela ouvrira correctement les Écritures, oui, c'est la vraie clé, qui ouvrira véritablement les paroles, les choses et les esprits. Mais celui qui ouvre sans cette clé est un voleur et un brigand, et devra restituer, au jour du jugement de Dieu, tout ce qu'il a volé, et malheur à celui qui, lorsqu'il est dépouillé de ce qu'il a volé, est trouvé nu. Les Écritures furent généralement données au peuple de Dieu, en partie aux Juifs, en partie aux chrétiens. Celui qui est né de la vie y a droit, et peut les lire et les comprendre dans l'esprit qui demeure dans la vie. Mais celui qui n'est pas né de l'esprit n'est qu'un intrus, et ne fait que dérober la lumière d'autrui, et les états et expériences d'autrui, pour les faire entrer dans son intelligence charnelle. Elles n'ont jamais été destinées à cela, mais seulement à être lues et vues dans cette lumière qui les a écrites. Toutes ces appréhensions charnelles de sa part, avec toute la foi, l'espérance, l'amour, la connaissance, les exercices, etc., qu'il a ainsi accumulées dans son esprit, avec toutes ses prières, ses larmes et ses jeûnes, et autres imitations deviendront pour lui une perte car il devra en être dépouillé de toutes, et en devenir d'autant plus nu, lorsque Dieu recouvrera ses écritures de l'esprit obscur de l'homme, qui les a déchirées et extrêmement profanées par ses conceptions, ses suppositions et ses imaginations, et les rendra de nouveau à son peuple. Les prophètes et les apôtres, qui ont écrit les Écritures, avaient d'abord la vie en eux, et celui qui comprend leurs paroles doit d'abord avoir la vie en lui. Celui qui comprend les paroles de la vie doit d'abord avoir la vie en lui-même, et la vie d'où sont sorties les paroles et la mesure des paroles, et non les paroles de la vie. Et lorsque l'Écriture est interprétée par la vie et l'esprit qui l'a tracée, il n'y a alors plus de dispute ni de querelle à son sujet, car tout cela est hors de la vie, issu d'eux et dans cet esprit, cette nature et cette pensée où se trouve la convoitise, l'inimitié, la contention, et non l'unité, l'amour, la paix. Mais voici ce qui défait tout. L'esprit mort de l'homme lit l'Écriture, et depuis cette sagesse qui est dans la mort ne connaissant pas la pensée de l'esprit, donne des sens, et en croyant et en pratiquant les choses qui y sont dites, ce que la mort peut faire aussi bien qu'en parler, il se forge l'espérance qu'à la fin tout ira bien à cause de Christ, bien qu'il ne sente pas la purification, le nettoyage, la circoncision qui retranche ici le corps du péché et de la mort, car il ne doit pas être retranché plus tard dans la vie à venir. Le principe fondamental de l'Évangile, voici donc le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. 1 Jean 1, 5 Tel fut le message que Christ donna à ses apôtres, pour se frayer un chemin jusque dans les cœurs des hommes. C'est la première chose que l'Esprit, qui gît dans les ténèbres, doit recevoir, à savoir qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu, rien que la lumière. Les ténèbres en sont exclues, et l'Esprit qui demeure dans les ténèbres ne peut avoir union ni communion avec lui. C'est pourquoi celui qui veut être un avec Dieu et participer à sa vie doit sortir des ténèbres, qui n'ont aucune place auprès de Dieu, pour venir dans la lumière où Dieu est et où il demeure. L'œuvre du Fils est de révéler le Père et d'attirer vers le Père. Il le révèle comme lumière, comme source de lumière, comme fontaine de lumière, et il attire vers lui comme vers la lumière. Quand il donna à ses apôtres le message permanent par lequel il devait le faire connaître au monde, et par lequel les hommes devaient entrer en communion et en connaissance avec lui, c'est celui-ci. Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Christ Jésus, le Fils de Dieu, il est l'image de sa substance, l'image exacte de cette lumière, la lumière du monde, qui doit éclairer le monde pour le conduire dans cette substance. Ainsi, de même que Dieu le Père doit être connu comme lumière, Christ le Fils aussi doit être connu comme lumière. Il est le Fils unique du Père des Lumières, la seule image dans laquelle la substance éternelle est révélée et rendue connue. Et celui qui reçoit cette image reçoit la substance, et celui qui ne reçoit pas cette image la lumière, Christ ne reçoit pas la substance le Père des Lumières. Or il y a un souffle ou esprit issu de cette substance, dans cette image, qui attire vers l'image, ainsi le Père attire vers le Fils, et l'image à son tour attire vers la substance, ainsi le Fils attire vers le Père. Et en écoutant ce souffle, l'esprit et l'âme sont conduits hors des ténèbres, dans l'image de lumière qui est le Fils, et par l'image dans la substance, et voilà la communion à laquelle l'Évangile invite. En s'attachant à ce souffle, en étant transformé par ce souffle, en vivant dans ce souffle, en marchant dans cette sainte inspiration, il y a unité avec le Père et le Fils, qui eux-mêmes demeurent dans ce souffle, d'où vient ce souffle, en qui est ce souffle, et en qui sont tous ceux qui sont un avec ce souffle. Ce souffle purge le souffle obscur, l'air obscur, la puissance obscure, le mystère de la mort et des ténèbres, et il remplit du souffle de la lumière, du souffle de la vie, de la puissance vivante, du mystère saint et pur. Or, comme le Père est lumière, et le Fils lumière, ainsi ce souffle, cet esprit qui procède de deux, est aussi lumière. Et comme le Père, qui est lumière, ne peut être révélé que par le Fils, qui est lumière, ainsi le Fils, qui est lumière, ne peut être révélé que par l'Esprit, qui est lumière. Celui donc qui entend ce message, que Dieu est lumière, et se sent lui-même ténèbres, et dans les ténèbres, et qui veut être attiré hors des ténèbres dans la communion avec Dieu, qui est lumière, il lui est nécessaire de savoir ceci, à savoir comment il peut être attiré hors de là, qui est ce qui attire, et quelles sont les attractions, afin de ne pas y résister ni les négliger, en attendant autre chose et de manquer ainsi le vrai et unique passage vers la vie. Observez donc cela avec attention. Nul ne peut attirer vers le Père, sinon le Fils, nul ne peut attirer vers le Fils, sinon le Père, et tous deux n'attirent que par l'Esprit. Le Père, par son Esprit, attire vers le Fils, par le même Esprit, attire vers le Père, et tous deux attirent par l'Esprit en tant qu'il est lumière, en tant qu'il est leur lumière allumée à cette fin. Car comme le Père est lumière, et le Fils est lumière, ainsi l'Esprit qui les attire doit être lumière aussi. Il est en effet le souffle de la lumière, éternellement allumé, pour attirer vers l'image éternelle de la lumière, et ensuite vers la substance éternelle, qui demeure éternellement dans cette image éternelle. Question. Mais comment puis-je connaître l'Esprit, et ses opérations, afin de le suivre et d'être conduit par elle, à la fois vers le Fils et vers le Père, et parvenir ainsi à la communion éternelle? Réponse. L'Esprit se reconnaît à ses mouvements et opérations qui lui sont propres, qui procèdent uniquement de lui et de rien d'autre. Question. Lesquelles? Réponse. Convaincre du péché et reprendre à cause du péché, ce que rien ne peut véritablement découvrir et reprendre sinon la lumière de l'Esprit. Les ténèbres ne peuvent manifester les ténèbres, mais tout ce qui rend manifeste est lumière. Toutes les découvertes des ténèbres, dans le monde caché du cœur, viennent de Christ, le soleil de justice, par son Esprit, quel que soit le nom que les hommes lui donnent, eux qui ne connaissent ni ce soleil, ni sa lumière, ni les vrais noms des choses dans la lumière, mais ont même nommé les choses de Dieu dans les ténèbres, et selon les appréhensions et conceptions obscures de leur propre esprit imaginaire. Mais je dis ceci à de tels hommes, si prompts à se creuser la tête et à disputer, laissez les crêles de mots, venez à la chose, venez à ce qui vous reprend en secret, suivez la lumière qui ainsi reprend et attire, soyez diligents, soyez fidèles, soyez obéissants, vous trouverez qu'elle vous conduira à ce à quoi toute votre connaissance en dehors d'elle-même, tout ce que vous appelez lumière spirituelle, ne pourra jamais vous conduire. Et lorsque vous serez unis à cette lumière, elle vous montrera celui que vous avez percé et cela comme vous ne l'aviez encore jamais vu, et elle ouvrira en vous une veine nouvelle de sang et de douleur pour saigner et pleurer sur lui, et elle opérera en vous ce repentir auquel vous n'aviez jamais été familiarisé auparavant. Et elle vous enseignera cette foi dont vous êtes encore étranger. Et elle vous enseignera ce renoncement à soi qui atteindra la racine même de cette nature qui vit encore, même sous cela et par le moyen de cela que vous appelez. Oui, un joug, tel que l'hypocrite qui est capable de le dissimuler sous des confessions de péché, et des formes de zèle, de connaissance, de dévotion et de culte, en sera tourmenté et consumé chaque jour. Alors vous saurez ce que c'est qu'attendre Dieu dans la voie de ses jugements, et vous trouverez les puissances de la vie et de la mort luttant pour votre âme, et des flots et des tempêtes vous encerclant et vous accompagnant chaque jour, sous lesquels vous tomberez assurément et périrez, à moins que le bras éternel de la puissance de Dieu ne soit étendu vers vous et ne vous rachète continuellement. Alors vous sentirez et verrez comment le péché est pardonné et comment il est lié, comment la mort a fait irruption sur Adam, et comment elle fait chaque jour irruption sur le genre humain, et quelle est cette bannière que l'Esprit du Seigneur dresse contre les puissances des ténèbres. Alors vous en viendrez à percevoir clairement que ce que vous appeliez autrefois religion, qui ne procédait pas de ce principe, n'a été que l'invention de votre propre esprit imaginaire, bien que vous l'ayez attribué aux Écritures, comme la plupart des hommes attribuent aux Écritures la plupart de leurs inventions concernant la doctrine et le culte, dans laquelle vous avez été dans le rêve d'être changé, tout en restant encore le même en nature. Vous verrez comment vous aviez la réputation d'être vivant, mais que vous êtes encore mort, une réputation d'être sanctifié, mais encore impur, une réputation d'être justifié, mais encore condamné par la lumière dans votre propre conscience, qui est une avec celui qui est votre juge, et qui jugera selon elle. Ainsi, à mesure que ce qui est réel prend place en vous, ce qui n'était qu'imaginaire disparaîtra. Un court catéchisme à l'intention de ceux qui ont le cœur. Simple question. Quel est l'état et la condition de tous les hommes par nature, tels qu'ils sont engendrés de la semence du malfaiteur, et qu'ils sortent des reins du premier Adam? Réponse. Un état de péché et de ténèbres, un état de mort et de misère, un état d'inimitié contre Dieu, un état maudit de Dieu, exposé à sa colère et à ses jugements très justes, ici et dans l'au-delà. Q. Qu'est-ce qui a conduit Adam à cet état, et qu'est-ce qui y maintient les fils d'Adam? R. Le fait de se nourrir de l'arbre de la connaissance, dont l'homme n'est pas exclu jusqu'à ce jour, bien qu'il soit exclu de l'arbre de vie. Q. Comment Adam d'abord, et comment les hommes encore, en sont-ils venus à se nourrir de l'arbre de la connaissance? R. Par un appétit et un désir de convoitise pour la sagesse interdite, semée dans leur cœur par l'ennemi envieux de leurs âmes, qui s'enlacent continuellement autour de cet arbre, et tant hommes et femmes d'en manger, persuadant ceux-ci que son fruit est bon à manger, et en effet il est très désirable à leurs yeux, et promet de les rendre sages pour toujours, mais échoue toujours. Q. Quel est le fruit défendu? R. C'est la connaissance sans la vie, la connaissance dans la partie terrestre, la connaissance acquise d'en bas, non donnée d'en haut. Elle promet de rendre les hommes semblables à Dieu, et de leur donner la capacité de discerner et de distinguer le bien et le mal, ce qui est la propriété particulière de Dieu. Manger de ce fruit a perdu Adam, a perdu les païens, a perdu les juifs, a perdu les chrétiens, tous se nourrissant de l'arbre de la connaissance et s'écartant de la vie dans leurs diverses dispensations. Q. Comment ce fruit perd-il l'homme? R. la sagesse et la connaissance qu'ils amassent ainsi et dont ils se nourrissent les pervertissent, les rendent sages dans la mauvaise partie, les exaltent contre la vie, émoussent le véritable appétit et accroissent le mauvais appétit, si bien qu'il n'y a pas même en eux un désir de Dieu en vérité, mais seulement celui d'obtenir connaissance et sagesse de ce qu'ils peuvent comprendre. Par ce moyen, tout ce qui avait ensuite été ordonné pour la vie devint mort pour l'homme. Ainsi les païens n'aimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, mais tombèrent par leur dispensation, provoquant Dieu à les rejeter et à les livrer à la vanité de leurs imaginations. Et ainsi les Juifs, que Dieu avait alors choisis, tombèrent pareillement par leur dispensation, Dieu pour cette cause, les livrant à la convoitise de leur propre cœur et les rejetant comme peuple. Et les païens, que Dieu greffa sur le véritable olivier à la place des Juifs, eux aussi de la même manière, tombèrent par leur dispensation. Ainsi, chacun de ceux-là tomba en recueillant de la sagesse depuis la lettre, mais en manquant la vie dans toutes ses dispensations. Quelle est la nourriture dont l'homme devrait se nourrir, R. L'arbre de vie, la parole qui vit et demeure à jamais, qui est au milieu du jardin de Dieu, cette parole a été faite chair à cause de la faiblesse de l'homme, l'âme vivante se nourrit de cette chair, et l'esprit vivant boit son sang, et ainsi est nourri jusqu'à la vie éternelle. Mais Adam avait-il cette nourriture pour s'en nourrir, et devait-elle être la nourriture des païens, des juifs et des chrétiens, dans leurs diverses dispensations, R. Dieu insuffla à l'homme le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, et rien de moins que la vie elle-même ne pouvait satisfaire son âme au commencement, ni ne le peut encore aujourd'hui. Toute parole de Dieu qui sort fraîchement de sa bouche est la nourriture et la vie de l'homme. Et Dieu parle souvent à l'homme, lui montrant ce qui est bon, mais il ne peut ni prendre goût ni s'en nourrir, et il désire autre chose par l'erreur et l'aliénation de son esprit. Ce que Dieu dit maintenant à l'homme, si cela est la vie de l'homme, Adam en avait bien davantage avant sa chute. Et pour les Juifs, Moïse leur dit que la parole était près d'eux, dans leur cœur et dans leur bouche, et Paul le dit aussi aux chrétiens. Ainsi la parole n'est loin d'aucun homme, mais les oreilles des hommes lui sont généralement fermées, par la subtilité du serpent qui les séduisit d'abord. Mais les Juifs ne cherchaient-ils pas la vie éternelle en lisant et en étudiant les Écritures sous leur dispensation? Les chrétiens ne cherchent-ils pas maintenant la vie, et à se nourrir de la vie? R. Oui, ils l'ont fait, et le font à leur manière, mais ils la refusent à la manière de Dieu. Ainsi Adam, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, aurait voulu se nourrir aussi de l'arbre de vie, mais il en fut alors exclu, et les chrétiens le sont maintenant. Et s'ils veulent jamais se nourrir de l'arbre de vie, ils doivent perdre leur connaissance, ils doivent être rendus aveugles, et y être conduits par un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'est trop mystérieux pour moi, donnez-moi la connaissance simple, littérale des Écritures. R. La substance n'est-elle pas un mystère? La vie n'est-elle pas là? La lettre de toute dispensation tue. C'est l'esprit seul qui vivifie. Un homme peut lire assidûment la lettre des Écritures, en tirer une grande connaissance et s'en nourrir avidement. Mais c'est seulement l'esprit mort en l'homme qui se nourrit, tandis que l'âme au-dessous reste maigre, stérile, affamée et insatisfaite, ce qu'elle sentira lorsqu'elle s'éveillera. Mais l'esprit mort, ne peut-il pas aussi imaginer des mystères en toutes choses et s'en nourrir, R. Oui, il le peut, et l'erreur ici est plus grande que la précédente, mais en attendant, dans l'humilité et la crainte, que le véritable œil soit ouvert et que le véritable mystère soit révélé au cœur humble et honnête, et en recevant cela dans la démonstration de l'esprit, en dehors de la sagesse de la chair, il n'y a ici aucune erreur, mais la vraie connaissance qui jaillit de la vie et apporte la vie. Comment puis-je parvenir à ce mystère, R. Il n'y a qu'une seule clé qui puisse l'ouvrir, une seule main peut tourner cette clé, et un seul vase, un seul cœur, un seul esprit peut recevoir la connaissance. Comment puis-je obtenir ce cœur, R. De même que étant touché par l'ennemi, tu l'as laissé entrer et ne l'as pas repoussé par la puissance de cette vie qui était plus forte que lui et plus proche de toi, de même maintenant, lorsque tu es touché et attiré par ton ami qui est proche, et que tu trouves ainsi le commencement de la vertu entrant en toi, abandonne-toi dans et par cette vie et cette vertu, et attends-en davantage. Et à mesure que tu sens cette poursuite, cet appel et cette croissance peser sur toi, continue de suivre, et cela te conduira d'une manière merveilleuse. Or, mais puis-je faire quelque chose pour mon propre salut, R. De toi-même, tu ne le peux pas, mais dans la puissance de celui qui produit en toi le vouloir et le faire, tu peux faire un peu au début, et à mesure que cette puissance grandit en toi, tu seras capable de vouloir davantage et de faire davantage, jusqu'à ce que rien ne te paraisse trop difficile. Et lorsque tu auras tout vaincu, tout souffert, tout accompli, tu verras et tu pourras dire avec intelligence que tu n'as rien fait, mais que la vertu, la vie et la puissance éternelle ont tout opéré en toi. Je comprends d'après ce qui est dit, qu'il y a un sauveur, quelqu'un en qui il y a vertu, vie et puissance pour sauver, mais comment puis-je le rencontrer, R. Oui, celui qui a fait l'homme a compassion de lui, et ne veut pas qu'il périsse dans la fosse où il est tombé, mais a établi quelqu'un pour le tirer dehors et le sauver. Qui est ce sauveur, R. Il est l'arbre de vie dont j'ai parlé tout ce temps, dont les feuilles ont en elles la vertu de guérir les nations. Il est la plante de justice, la plante de la droite main de Dieu. As-tu jamais connu une telle plante en toi, plantée là par la droite main de Dieu? Il est la résurrection et la vie, qui relève l'âme morte et la fait vivre. Il est la manne spirituelle, dont l'âme vivifiée se nourrit. Oui, sa chair est vraiment une nourriture, et son sang est vraiment un breuvage. Celui qui est relevé dans la vie s'en nourrit et y trouve la vertu vivante, qui rassasie et nourrit son âme immortelle. Mais ce sauveur n'a-t-il pas un nom? Quel est son nom? R. Il vaudrait mieux pour toi prendre son nom en sentant sa vertu et sa puissance dans ton cœur, plutôt que par récitation. Toutefois, si tu peux le recevoir, voici son nom, la lumière du monde, une lumière pour éclairer les païens, afin de les convertir et de faire de l'Israël de Dieu, et de devenir leur gloire. Et selon sa charge, il a éclairé tout homme qui vient au monde, bien que les hommes ne connaissent ni la lumière qui vient de lui, ni celui de qui la lumière vient, et ainsi bien que la lumière soit si proche d'eux, ils lui restent étrangers et ne sont pas sauvés par elle. Q. Pourquoi l'appelez-vous la lumière? N'y a-t-il pas d'autres noms tout aussi appropriés, par lesquels il pourrait tout aussi bien être connu? R. Ne dresse pas ainsi en toi la partie qui se croit sage et qui trébuche, mais porte ton attention sur la chose qui d'abord fait jaillir sa vertu comme lumière, et qui doit donc d'abord être connu, reconnu et reçu. Mais plus particulièrement, si tu veux savoir par quels moyens, considère cette raison, nous l'appelons lumière parce que le Père des Lumières a particulièrement choisi ce nom pour lui, afin de le faire connaître à son peuple en ce temps-ci, et qu'il s'est ainsi manifesté à nous. Et en le recevant sous ce nom, nous en venons à connaître ses autres noms. Il est la vie, la justice, la puissance, la sagesse, la paix, etc. Mais il est tout cela dans la lumière, et c'est dans la lumière que nous les apprenons et les recevons tous, et aucun d'eux ne peut être connu en esprit, sinon dans et par la lumière. Q. Comment les autres noms de Christ sont-ils connus dans et par la lumière? R. En laissant entrer la lumière qui convainc du péché et lui fait la guerre, la vie s'émeut et se fait sentir, et la vie conduit à la parole qui était au commencement, et donne aussi le sentiment de celle-ci. Et dans la parole, la justice, la paix, la sagesse, la puissance, l'amour se font sentir, et il devient toutes ces choses pour ceux qui sont conduits dans la lumière et y sont gardés. Et lorsque les puissances des ténèbres apparaissent avec une grande terreur, et qu'il n'y a aucune force pour leur résister, cela dresse une bannière contre elles, calme toutes les tempêtes, guérit toutes les blessures et toutes les maladies de l'âme, loignant de lui l'Éternel, de sorte que maintenant je peux sensiblement et avec une claire intelligence l'appeler mon Sauveur, le chef de mon salut, mon Christ ou un, mon époux, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu. Q. Où cette lumière brille-t-elle? R. Dans les ténèbres d'abord, mais lorsqu'elle a vaincu, expulsé et dissipé les ténèbres, elle brille hors d'elle. Q. Quelles sont ces ténèbres dans lesquelles la lumière brille? R. L'homme, le cœur de l'homme, la conscience de l'homme, l'esprit de l'homme. Voilà le monde dont Christ, le soleil de justice, est la lumière, en chaque partie duquel il fait briller, à son bon plaisir, les rayons ou faisceaux de sa lumière, bien que, dans aucune partie, les ténèbres ne puissent saisir le moindre éclat de sa lumière. Q. Comment donc peut-il jamais être converti par cela? R. Les ténèbres ne doivent pas être converties. Tout homme dans cet état est réprouvé, et la colère demeure sur lui. Ainsi les ténèbres sont rejetées, et l'homme dans les ténèbres, mais l'homme touché par la lumière, rendu sensible à elle, et la suivant dans la vie et la puissance qu'elle engendre, est attiré hors de l'horrible fosse et sauvé. Q. Comment puis-je faire pour trouver la lumière au milieu des ténèbres de mon cœur, qui sont si grandes, et cette semence si petite? R. Par le fait qu'elle découvre les ténèbres et leur fait la guerre. Il y a quelque chose qui découvre l'iniquité ouverte et secret du cœur corrompu, la poursuivant sous tous ses revêtements de zèle, de sainteté, et toutes sortes d'humilité volontaire et de justice propre, avec lesquelles la vraie lumière n'a jamais eu d'unité. Et parfois cela peut produire des doutes secrets que tout ne va pas bien, mais qu'une faille pourrait être trouvée dans ce revêtement, et qu'à la fin il pourrait se révéler trop étroit pour l'âme. Ce qui ainsi combat les ténèbres, pour détourner les gens de tous les faux fondements vers le fondement vrai et vivant, c'est la lumière, et c'est ainsi que tu peux la trouver à un moment ou à un autre à l'œuvre dans ton cœur, si tu y prends garde. Q. Ayant trouvé la lumière, comment puis-je en venir à sentir sa vertu et sa puissance salvatrice? R. En y croyant. Car la vertu et la puissance jaillissent dans le cœur qui y croit. Q. Comment puis-je y croire? Ne suis-je pas mort? R. Il y a dans la lumière une puissance créatrice, vivifiante, qui engendre un peu de vie, et cela peut répondre à la voix de la puissance vivante. Q. Oui, si je pouvais trouver quelque chose de tel engendré en moi, alors je pourrais être amené à donner mon assentiment à cela, si petit soit-il, et je pourrais croire, mais sûrement mon cœur mort ne le peut jamais. R. N'as-tu jamais trouvé un souffle vrai, honnête, tourné vers Dieu? N'as-tu jamais trouvé que le péché n'était pas un fardeau imaginaire, mais réel? Cela venait de la vie, il y avait en toi quelque chose engendré de Dieu qui sentait cela. Ce n'était pas la chair et le sang en toi, mais quelque chose d'en haut. Et si cela avait connu la source de sa vie et n'en avait pas été détourné par la subtilité qui l'a trompé, cela se serait nourri et aurait grandi dans la vertu et la puissance de la source d'où sa vie provenait. Pourquoi donc, d'après cela, tous les hommes ont le pouvoir de croire? R. Dans la lumière qui brille en tous et visite tous, il y a la puissance, et cette puissance lutte avec la créature pour s'introduire elle-même dans la créature, et là où il y a eu le moindre souffle après la vie, il y a eu un goût de la puissance car cette lutte venait d'elle. Mais le grand séducteur des âmes élève l'esprit des hommes dans l'imagination, pour qu'ils attendent quelques grandes manifestations de puissance. Ainsi ils méprisent et négligent le jour des petites choses, et omettent de recevoir le commencement de cela qui, à la fin, serait justement la chose qu'ils recherchent. En attendant dans ce qui est bas et petit dans le cœur, la puissance entre, la semence croît, le royaume se fait sentir et se révèle de jour en jour davantage dans la puissance. Voilà la vraie porte et le vrai chemin vers la chose, prends garde de vouloir y grimper par-dessus. Qu'est-ce que croire en la lumière R. Recevoir son témoignage, soit concernant le bien, soit concernant le mal, et ainsi soit se tourner vers, soit se détourner de comme dans l'obéissance et le repentir, dans la volonté et la puissance que la lumière engendre dans le cœur. Comment cela me sauvera-t-il R. De cette manière, ce qui en toi te détruit et te sépare du Dieu vivant est chaque jour travaillé hors de toi, et le cœur est chaque jour changé à l'image de celui qui est lumière, et amené dans l'unité et la communion avec la lumière, la possédant et étant possédé par elle, et cela c'est le salut. Nous pensions que le salut était quelque chose à recevoir dans la vie à venir, après la mort du corps, mais si c'est ainsi, alors le salut s'accomplit ici. R. C'est ainsi chez tous ceux qui sont sauvés, car il n'y a pas d'accomplissement de cela dans la vie à venir, mais ici cela s'accomplit avec crainte et tremblement, et le croyant, qui est véritablement en unité avec la vie, est chaque jour changé de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Q. Mais montrer plus précisément comment la foi, ou croire en la lumière, opère le salut. Réponse premièrement, cela fait qu'une crainte et un tremblement saisissent le pécheur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le lever de sa lumière dans le cœur, fait trembler les puissances des ténèbres, la terre fondre les collines et les montagnes, et les beaux arbres fruitiers jeter leurs fruits. Et alors la plante du Seigneur jaillit hors de la terre sèche et stérile, et par les rosées et les pluies d'en haut prospère, croît et s'étend jusqu'à remplir la terre de Dieu. Deuxièmement, dans cette crainte et ce tremblement, l'œuvre du vrai repentir et de la conversion commence et se poursuit. Il y a un retournement de l'âme, des ténèbres vers la lumière, de la puissance obscure vers la puissance de lumière, de l'esprit de tromperie vers l'esprit de vérité, de toutes les fausses apparences et imaginations au sujet de la sainteté, vers ce que la lumière éternelle manifeste comme l'étant véritablement. Et c'est maintenant un temps de deuil, de profond deuil, tandis que la séparation s'opère, tandis que la force de l'ennemi n'est pas brisée et soumise, et tandis que le cœur sent de temps en temps qu'il désire encore ses anciens amants. Troisièmement, dans la foi en la lumière et dans la crainte placée dans le cœur, il jaillit une espérance vivante, dans le principe vivant, qui s'est manifesté et a commencé d'agir. Car l'âme se tournant véritablement vers la lumière, le bras éternel, la puissance vivante, se fait sentir, et l'encre se faisant sentir, elle maintient l'âme au milieu de toutes les difficultés, orages et tempêtes qu'elle rencontre ensuite, qui sont nombreuses, oui, très nombreuses. Quatrièmement, la foi, par l'espérance, produit la justice et enseigne la vraie sagesse, et maintenant le bénéfice de toutes les peines, angoisses et misères précédentes commence à se faire sentir, et l'œuvre se poursuit doucement. Toute l'injustice est dans les ténèbres, dans l'incrédulité, dans la fausse espérance. La foi en la lumière opère hors de soi l'injustice et fait entrer en soi la justice de Dieu, en Christ, et elle rend véritablement sage, sage dans la puissance vivante, sage même contre le mal et pour le bien, ce que nul homme ne peut apprendre ailleurs. Cinquièmement, dans la justice et dans la vraie sagesse reçue dans la lumière, il jaillit un amour, une unité et une communion avec Dieu, le Père des Lumières, et avec tous ceux qui sont enfants de la lumière. Engendré par Christ, la lumière, dans la nature de la lumière, et mis au monde dans l'image, on ressent bientôt une unité avec Dieu, le Père, et avec ceux qui sont nés du même sein et participent à la même nature. Et ici, dans cet amour, on sent une volonté et une puissance de donner sa vie, même pour la moindre vérité de Christ ou pour les frères. Sixièmement, la foi en la lumière produit la patience, la douceur, la bienveillance, la tendresse et la longanimité. Elle supportera toute chose pour Dieu, toute chose pour le bien des âmes des hommes. Elle attendra tranquillement, et dans le silence l'avancement de l'œuvre de Dieu dans sa propre âme, et la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers les autres. Elle supportera la contradiction et l'opprobre des pécheurs, recherchant leur bien, même pendant qu'ils complotent, machinent et couvent de leur nuire, dressant de nombreux pièges subtils et désirant ainsi prendre l'innocent au filet. Septièmement, cela apporte la paix, la joie et la gloire. La foi dans la lumière abat le mur des ténèbres, le mur de séparation, ce qui sépare de la paix, ce qui cause l'angoisse et le trouble dans l'âme, et ainsi elle introduit dans la paix. Christ est le médecin habile, il guérit la maladie en supprimant la cause. Les médecins maladroits, eux, guérissent d'une manière trompeuse, criant « paix, paix » quand il n'y a point de paix, tandis que ceux qui brisent la paix demeurent debout. Mais Christ n'agit pas ainsi, il tue l'inimitié dans le cœur par le sang de sa croix, faisant ainsi la paix. Et c'est là la vraie paix, une paix certaine. Alors, trouvant les modes de terre ôtés, l'ennemi, le perturbateur, le briseur de paix foulé aux pieds, le péché enlevé, la vie et la puissance présente, l'âme amenée dans la paix, voici la joie, une joie ineffable, une joie que le monde ne peut ni voir ni toucher, et à laquelle les puissances des ténèbres ne peuvent s'approcher pour l'interrompre. Ici, plus de cris, ô homme misérable. Et qui délivrera, etc. Mais une réjouissance en celui qui a donné la victoire et fait de l'âme une conquérante, oui, plus que conquérante. Attendez de sentir cela, vous qui gémissez à présent et êtes opprimés par les impitoyables puissances des ténèbres. Et cette joie est pleine de gloire, une gloire qui augmente chaque jour davantage, par la vision et le sentiment quotidien de la vertu et de la puissance vivante en Christ, la lumière, par lesquelles l'âme est continuellement transformée et changée de plus en plus, du corruptible à l'incorruptible, de l'incirconcision de la honte, de l'opprobre, à la circoncision, à la vie, à la gloire. La lumière fait-elle tout cela, oui, chez ceux qui se tournent vers elle, s'y abandonnent et demeurent en elle. En eux, elle nettoie l'épaisseur et les ténèbres, et les transforme chaque jour à l'image, dans la pureté et la perfection de la lumière. Et rien ne peut faire cela, sinon la lumière seule. Qu'est-ce qui rend les hommes généralement si hostiles à la lumière Leur union avec les ténèbres, dont la lumière est l'ennemi, les découvrant et les troublant. Mais les sages, les hommes instruits, les hommes qu'on regarde comme ayant le plus de lumière, eux aussi sont ennemis de cette lumière et en parlent durement. N'en a-t-il pas toujours été ainsi? Aucun des chefs, ni des scribes sages et docteurs de la loi, n'a-t-il cru en lui autrefois? Et est-ce étonnant si de tels ne croient pas en lui maintenant? Quelle peut être la raison pour laquelle les sages, autrefois, n'ont pas cru et maintenant ne peuvent pas croire en la lumière? Il y a deux grandes raisons à cela. 1. Parce qu'ils ne peuvent la comprendre. Ils peuvent comprendre le savoir qu'ils peuvent recueillir dans le livre de la nature, ou dans les livres de la loi et des prophètes, ou dans les livres des évangélistes et des apôtres, mais ils ne peuvent comprendre la lumière dont tous ceux-ci rendent témoignage. Ainsi, ce genre de connaissance, ils peuvent le recevoir, mais la lumière, ils ne le peuvent pas, car elle n'est pas faite pour être comprise, au contraire, elle recueille en elle-même et comprend. 2. Parce qu'elle est leur ennemi absolu. Elle ne fermera pas les yeux sur le plus secret de leurs mots, ni ne leur parlera de paix en cela. Leur propre savoir amassé peut leur parler de paix, mais elle, non. Ainsi, les Juifs pouvaient se dire en paix à eux-mêmes, à partir du temple, des ordonnances et des sacrifices, bien qu'ils marchassent dans l'entêtement et l'incirconcision de leur cœur, résistant aux réprimandes et aux motions du Saint-Esprit en eux. Ainsi, les chrétiens peuvent se dire en paix à eux-mêmes, à partir d'une croyance et d'une espérance fondée sur la mort de Christ à Jérusalem, bien qu'ils ne le connaissent pas en eux, et soient éloignés, et que nul n'est dans son cœur ce qui est de Christ, et que dans sa puissance et son autorité, cela reprenne et réprimande le péché. Mais la lumière ne parle pas ainsi de paix, seulement là où la vertu du sang vivant est ressentie, purgeant le péché. Mais il y a beaucoup de croyants, des croyants stricts, qui, sans doute, ont autrefois goûté à la vertu vivante. Qu'est-ce qui les rend si ennemis de la lumière, car nul n'en parle plus contre elle que parce qu'ils sont déchus de ce qu'ils avaient autrefois, car s'ils étaient dans ce principe vivant, qui leur donnait jadis un vrai goût de la vie par les Écritures, ils ne pourraient que connaître et reconnaître la lumière, qui était ce qui leur donnait ce goût, et qui aurait conservé leur saveur, s'ils avaient su comment se tourner vers elle et demeurer en elle. 2. La lumière rend témoignage contre tout leur savoir et leurs pratiques religieuses, et leurs imitations tirées de l'Écriture, qu'ils tiennent et pratiquent hors de la lumière, dans l'injustice, jusque dans cette part qui n'est pas destinée à connaître ni à être l'adorateur. Et pouvez-vous leur en vouloir que, la lumière étant un si grand ennemi pour eux, ils se dressent tous contre elle? Comment est-il possible que, ayant tué et assassiné le juste en eux-mêmes, ils le reconnaissent et lui rendent l'honneur qui lui est dû chez les autres? Mais les croyants stricts, qui prétendent faire de grandes choses à l'honneur de Christ, l'ont-ils assassiné en eux-mêmes? Oui, vraiment, aussi réellement que les scribes, les pharisiens et le peuple des Juifs l'ont mis à mort à Jérusalem, car ce qu'ils font à la moindre apparition de sa lumière dans leur cœur, ils le lui font à lui. Oui, notre Seigneur Christ, en ce jour même, est aussi réellement crucifié dans leur Égypte et leur Sodome spirituel qu'il l'a été hors des portes de Jérusalem. et son sang juste crie aussi fort contre les croyants de cet âge qu'il a jamais crié contre les Juifs, et ils se sont endurcis contre lui par un savoir présomptueux, qu'ils ont amassé par leurs imaginations à partir des Écritures, exactement comme les Juifs, mais l'œil en eux ne peut pas plus le voir que l'œil des Juifs ne le pouvait. Sûrement s'il savait que la lumière est l'unique voie vivante, il ne lui serait pas si ennemi. Oui, je crois à leur sujet, comme il fut dit au sujet des Juifs, que s'ils la connaissaient, ils ne crucifieraient pas le Seigneur de gloire, car je rends témoignage à beaucoup d'entre eux qu'ils ont un grand zèle, mais non selon la connaissance. Mais à présent, leur état est très triste, car le Dieu de ce monde a aveuglé l'œil en eux, le seul qui puisse voir la vérité, et avec cet œil par lequel ils s'efforcent maintenant de voir, ils ne verront jamais avec consolation. Oui, beaucoup d'entre eux sont devenus si grossiers et si épais, et leur cœur si engraissé, qu'au lieu de sentir en eux-mêmes le manque de l'Esprit de Dieu et de le pleurer, ils peuvent se moquer de son apparition chez les autres, et parler avec mépris d'une lumière intérieure, là où Christ a dit que se trouve la lumière. Car a dit Christ, « Prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit ténèbre, car si elle l'est, combien grandes sont les ténèbres. » Luc 11, 33-36. Mais ne répondront-ils pas qu'ils ne s'opposent pas, à plus forte raison ne se moquent pas de la lumière de l'Esprit, mais seulement de ce que vous appelez, par ignorance, la lumière de l'Esprit R. Si nous avons trouvé que c'est la lumière de l'Esprit, et qu'elle opère en nous et pour nous ce qu'aucune autre lumière n'a jamais pu, ne nous blâmez pas de rendre notre témoignage qu'elle est cette lumière-là. Et prenez garde à la manière dont vous nous reprochez l'ignorance, puisque beaucoup d'entre nous ont traversé tout ce que vous appelez connaissance, mais notre lumière est pour vous une chose nouvelle et étrangère, et vous n'êtes pas encore capable d'en juger. Mais les hommes, ne peuvent-ils pas obtenir la vie éternelle en lisant les Écritures, sans connaître ni reconnaître ce principe de la lumière? Le véritable but de la lecture des Écritures, c'est de tourner les hommes vers la lumière. Les Écritures contiennent des messages concernant Dieu, concernant Christ, concernant l'Esprit. La fin de ceci est de tourner les hommes vers la puissance et la vie, qui peuvent faire la chose pour eux, et ce Dieu, ce Christ, cet Esprit remplissent toutes choses, et sont au-dedans, dans le cœur, aussi bien qu'au dehors. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, disait Moïse aux Juifs, disait Paul aux chrétiens. Et dans quel but leur disent-ils qu'elle y est, sinon afin que, là, ils l'attendent pour entendre sa voix et pour lui obéir. Or remarquez, quand bien même les hommes pourraient pratiquer et accomplir toutes les choses mentionnées dans les Écritures, pourtant s'ils ne sont pas tournés vers ceci, ils ne sont pas dans la voie du salut, car la voie du salut n'est pas un sentier particulier, ni une suite d'ordonnances et de devoirs prescrits dans les Écritures. Mais c'est une voie nouvelle, une voie vivante, une voie que les croyants les plus sages, en dehors d'elle, n'ont jamais connue, je les conduirai dans des sentiers qu'ils n'ont pas connus. Ainsi, tant que les hommes ne connaissent pas, ou ne sont pas tournés vers la lumière et la puissance dont les Écritures rendent témoignage, toute leur lecture des Écritures, leurs prières et leurs pratiques des ordonnances et devoirs qui y sont mentionnés, ne sont que vanité, et à la fin, ne se révéleront qu'un faux couvert, et non le couvert de l'Esprit. Mais comment faisaient les hommes autrefois? Car ce n'est qu'une notion récente au sujet de la lumière. Personne n'a-t-il jamais été sauvé sans avoir embrassé cette notion? Je ne parle pas d'embrasser une notion, mais de se tourner vers la chose elle-même, sans laquelle nul n'a jamais été, ni ne peut être sauvé, car elle seule peut sauver, et elle ne sauve que ceux qui se tournent vers elle. Or, si un homme lit les Écritures de telle sorte qu'il y apprenne à se tourner vers ceci, il peut sentir ce qui opérera le salut en lui, même s'il n'en connaît pas le nom. Car de même que les ténèbres, lorsqu'on se tourne vers elles, travaillent la mort en mystère, bien que leur nom ne soit pas connu, et qu'elles puissent apparaître et être prises pour de la lumière, ainsi la lumière, lorsqu'on se tourne vers elle, travaille la vie en mystère, quoique celui en qui elle opère ne puisse pas être capable de l'appeler par son nom. Donc, par cela, un homme peut être sauvé, même s'il ne connaissait pas le nom littéral Jésus, ou le nom littéral Christ, etc. Les noms ne sont que la signification de la chose dont on parle. C'est la vie, la puissance, le fait d'être transformé par cela qui sauve, non la connaissance d'un nom. Et les chrétiens se trompent puissamment eux-mêmes au-dedans, car ils pensent être sauvés en croyant un récit concernant Christ, tel qu'il a paru dans un corps de chair et qu'il a souffert la mort à Jérusalem. Car Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et la connaissance qui sauve le révèle non seulement tel qu'il était alors, mais tel qu'il était la veille, et tel qu'il sera à jamais. Et cette connaissance est aussi révélée dans l'Écriture, mais ils sont si noyés dans la lettre, par laquelle la part charnelle est tellement remplie, que l'œil spirituel ne peut s'ouvrir en ne pourvoir. Ainsi ce qui était ordonné pour la vie devient pour eux mort, et ils périssent comme les Juifs ont péri, car leurs yeux sont retenus par une sagesse dans laquelle ils ont grandi par la lettre, les empêchant de contempler le mystère de la vie dans l'esprit, qui seul peut mettre à l'œuvre et sauver du mystère de la mort. Mais Dieu n'opérait-il pas autrefois la vie en les hommes par leur lecture des Écritures et par la prédication de ministres pieux, tels que ceux qui sont maintenant méprisés et tenus pour antichrétiens? R. Lorsque les hommes lisaient autrefois les Écritures, au temps d'épaisses ténèbres, et lorsque certains de ceux-ci, qui n'étaient pas faits ministres selon l'ordre de l'Évangile, prêchaient avec la simplicité de leur cœur, selon la meilleure lumière de leurs sentiments et de leur expérience, le Seigneur eut pitié de la simplicité de leur cœur et secrètement rafraîchit ce principe en eux par une telle lecture et par une telle prédication. Mais maintenant que ce principe est manifesté, leur lecture et l'établissement d'une connaissance des Écritures sans celui-ci, qui était même alors la chose d'où ils tiraient leur vie, oui, en opposition à celui-ci, accroît leur mort et leur servitude et les exclut de la vie. Eh bien, je m'en tiendrai aux Écritures et j'y attendrai la lumière, que qui veut suivre cette nouvelle lumière, R. Vous en tiendrez-vous aux Écritures, en opposition à cette lumière, qui seule peut donner la connaissance des Écritures, quel genre de connaissance recueillerez-vous des Écritures? Non une connaissance qui vous humiliera et purifiera votre cœur, mais une connaissance qui vous enflera et vous préparera à l'abattage. Tant que vous êtes hors de la lumière, vous ne pouvez connaître les Écritures ni la puissance de Dieu, au contraire, vous n'exaltez que vos propres imaginations, conceptions et raisonnements, sans le sens des Écritures. Et vous le saurez un jour avec douleur, lorsque Dieu vous demandera compte de votre hardiesse à imposer des sens et des significations à ses paroles sans sa lumière. Je suis presque saisi d'effroi, R. Beaucoup sont tombés, et davantage doivent tomber, car la hache tranchante du Seigneur est préparée pour abattre tout croyant, avec toute sa profession et ses pratiques religieuses, et ses imitations tirées de l'Écriture, qui ne tiennent pas dans la vie pure. Heureux êtes-vous, si vous tombez maintenant par cette main, qui frappe aujourd'hui beaucoup de personnes avec une grande bonté et miséricorde, afin de les relever et de les affermir solidement sur le vrai fondement. Mais misérables sont ceux dont les yeux sont retenus jusqu'à ce que le jour de leur visitation soit passé, et qui continuent ainsi à garder leur position corrompue et leur confiance dans leur connaissance charnelle des Écritures, car eux aussi doivent tomber, mais leur chute sera d'une autre sorte. Considérez donc cet avis de tout mon cœur, que votre religion consiste à sentir le pur principe de vie dans le pur vase de vie, car l'œil doit être pur pour voir la vie, et le cœur qui la reçoit. Et la foi est un mystère pur, et elle ne se tient que dans une conscience pure. Connaissez en vous cette vie qui vous purifie, et alors vous connaissez Christ, et le Père, et l'Esprit, et à mesure qu'elles vivent et croient en vous, vous connaîtrez leur demeure et participerez à leur vie et à leur plénitude. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.